Le phénomène urbain est un axe de recherche important pour l'archéologie. Aujourd'hui, notre thème est une de ces grandes villes, non pas enfouie sous les sables du Proche-Orient, mais dissimulée dans la forêt bourguignonne. Vincent Guichard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du Centre archéologique européen de Bibract, gérez la destinée des fouilles du centre de recherche, mais aussi d'un grand musée, tous destinés à faire connaître une des grandes civilisations européennes, celle des Celtes. Au deuxième siècle avant notre ère, le monde celtique se couvre de cités. Nous voici dans ce que les archéologues dénomment la civilisation des oppidas. Bibract en fait bien sûr partie et en serait probablement un des meilleurs exemples.
Un des meilleurs exemples et probablement le meilleur exemple, pardon, parce que le plus fouillé, le plus étudié. Et il se trouve pourquoi le plus fouillé, le plus étudié. Il y a eu une opportunité historique, on y reviendra probablement dans l'émission. Et également le fait que le site est remarquablement conservé, ville abandonnée depuis 2000 ans, recouverte par la forêt, fossilisée par la forêt depuis 2000 ans. Donc un sanctuaire fantastique pour les archéologues.
Et on retrouve donc ces cités du Danube à l'Atlantique.
À peu près. Hein, les exemples comparables à Bibract, le plus oriental se situerait à peu près à la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie. Et on aurait quelques exemples dans le sud-est des îles britanniques.
Bibract serait une capitale, donc on peut imaginer que sa superficie est tout à fait gigantesque.
C'est très grand, il ne faut pas forcément corréler la superficie avec la population, mais au maximum de son développement, la surface enclose par les murailles fait 200 hectares, et il est clair maintenant, de plus en plus clair, qu'il y a en plus de cela des quartiers extérieurs qui peuvent rajouter quelques dizaines d'hectares supplémentaires.
Ce serait une des grandes villes de l'Europe celtique ?
C'est très clairement un des plus grands sites.
Qu'est-ce que l'on aurait d'autre, de comparable ?
L'autre exemple très fameux, parce que très, très bien étudié également, est l'oppidum de Manching, dans le nord de la Bavière, qui lui fait 350 hectares enclos de murailles. On a quelques exemples encore plus grands, avec le maximum à 1500 hectares, mais sur des sites très peu explorés, on ne sait pas dans quelle mesure, la fortification enclos un lieu qui a été véritablement densément habité. Ce qui est le cas... C'est quelqu'un qui pratique. Je pense notamment à Heidengraben, donc dans l'extrême sud de l'Allemagne.
On serait sur des grandes capitales celtiques.
Alors, le mot de capitale est un peu facile. Je veux dire que le mot de ville est un peu facile. On fait des oppidas, un lieu commun, je veux dire, de début de l'urbanisation. Peut-être, il faut peut-être moduler tout cela et rester très prudent. Parce que bien évidemment, on s'interroge toujours à savoir si ce sont des villes à part entière. De fait, je pense que un site comme Bibract, au moment, au maximum du développement, quelques décennies après la conquête romaine, c'est effectivement devenu le chef-lieu d'un territoire relativement important, de l'ordre de 3 à 4 départements français. Est-ce que dès la fondation du site, puisqu'il s'agit véritablement d'un acte de fondation, le site était déjà destiné à être un chef-lieu politique ou économique, c'est ce pour cela que l'on gratte. Sur ce
le
site.
Sol. Voilà. Vous venez de publier un bel ouvrage, Bibract, archéologie d'une ville gauloise, donc édité par vous-même et par votre centre archéologique. Je vous propose d'explorer donc cette cité qui appartient à un groupe celtique absolument important, les Éduins.
Oui, donc bon, rappeler brièvement que à l'époque de César, donc exactement la période qui nous occupe, César a lui-même fréquenté Bibract. La Gaule est très très loin d'être unie, donc elle est découpée en entités politiques régionales, ce que César appelle des cités, civitates en latin. Donc entités politiques de l'ordre de 3 à 4 départements, quelquefois un petit peu plus petits, ça dépend des régions, avec beaucoup de conflits entre ces entités et celles des Éduins, si l'on en croit César, et aussi on en croit à l'archéologie, parce que l'archéologie conforte très nettement les sources écrites. Ces Éduins ont une position qui est particulièrement importante. Ce sont des peuples les plus puissants, notamment probablement à cause de leur position géographique privilégiée. Leur territoire s'étend de la Saône à l'est à l'Allier à l'ouest, c'est-à-dire qu'ils contrôlent les 3 grands axes de circulation nord-sud, donc qui mettent la Méditerranée en contact avec l'Europe du Nord.
L'autre peuple, c'est peut-être les Arvernes.
Alors les Arvernes, mais aussi
et les Bélovaques.
Ces grands peuples du centre-est, les Arvernes, les Séquanes, les Bituriges, Cubes, qui ont des territoires à peu près détendus comparables et qui, suivant les moments, sont alliés ou sont au contraire en conflit les uns avec les autres.
Alors ce qui est très intéressant chez les Éduins, c'est que tout semble être tourné vers le commerce.
Alors, Bon, les témoignages du grand commerce sont particulièrement évidents hein, sur les sites éduins, du moins à partir du milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Les témoignages de ces liens commerciaux sont particulièrement marqués dans les sources écrites, puisqu'on a le témoignage unique hein, pour cette époque assez reculée, donc d'un traité qui a existé entre Rome et ce peuple. Au plus tard, au milieu du deuxième siècle, quand j'écris le traité, les sources ne disent pas que le traité est commercial, mais c'est très probable. Donc, il s'agissait pour les Romains de s'ouvrir des voies de passage à travers ce territoire éduin.
Alors, ce traité, d'abord, il est très tôt, et il est quasi bien avant qu'on parle réellement des peuples gaulois.
En tout cas antérieur à Bibracte et à ces sites fortifiés qui caractérisent vraiment la période finale de cet âge du fer. Il appartient au moment où on commence à pouvoir situer géographiquement de façon un petit peu sérieuse ces grands peuples dont des sources plus anciennes ou du moins des sources qui se réfèrent à des épisodes plus anciens nous parlaient mais de façon extrêmement vague. Donc c'est vraiment l'entrée dans l'histoire véritable de ces peuples qui se fait au deuxième siècle avant Jésus-Christ.
Et puis plus tard on parlera de certains éduins se rendant même à Rome.
Oui, c'est une anecdote qui est fascinante pour nous parce que nous ne retrouvons pas du tout ces témoignages dans le sol. Anecdote absolument unique sur les rapports entre Gaulois et Romains et qui concerne encore un éduin. Je serais tenté de dire très probablement un habitant de Bibracte, c'est du moins ce que je dis aux visiteurs de mon musée et de mon site, hein, pour essayer de le valoriser un petit peu. Donc il s'agit de Divisiacos, le seul druide gaulois dont l'histoire ait retenu le nom, qui s'en va en ambassade à Rome quelques années avant le début de la guerre des Gaules pour aller défendre son peuple et pour aller demander une aide militaire des Romains. Donc au passage, ça nous montre que les druides étaient aussi des ambassadeurs et qui, au cours de ce voyage, après avoir harangué le Sénat en armes, le druide était armé, ce qui était en plus sur le devant le Sénat de Rome, c'était parfaitement choquant, c'est tout à fait contraire aux traditions. Donc au cours de ce voyage, a passé quelques soirées studieuses à discuter et à délibérer avec probablement le plus grand intellectuel romain de l'époque, était Cicéron. Alors, que se sont-ils dit? En quelle langue ont-ils parlé? C'est fascinant, mais ils avaient des sujets de conversation en commun.
Les options économiques et politiques semblent aussi très particulières pour les éduins, du moins par rapport à l'ensemble de la Gaule indépendante.
Alors là encore, on est toujours pas dans le champ de l'archéologie et de ce que l'on peut retrouver dans le sol, ou du moins de façon univoque dans le sol, puisque une fois encore, il s'agit d'un témoignage de César, et uniquement de César, qui nous indique qu'à son époque, à une date avancée de la guerre des Gaules, dans la fin des années 50 avant Jésus-Christ, le peuple des Éduins est gouverné par un Sénat qui élit en son sein chaque année un magistrat chargé d'exécutif, donc une magistrature tournante. Ce magistrat en gaulois s'appelle le Vergobret, et le Vergobret c'est un titre qu'on trouve également dans l'épigraphie, un petit peu plus tardive. Alors, il est étonnant de voir à quel point ce système est proche du système romain de la même époque, hein, avec le Sénat et le consulat. Y a-t-il un rapport entre les deux? C'est une question qu'on se pose. Et certaines découvertes récentes de Bibracte pourraient nous amener à conforter ce rapport.
Lesquels?
Alors, il se trouve que un des intérêts majeurs de Bibracte pour l'archéologie est le fait que cette ville, qui est proprement gauloise par sa structure, hein, par sa genèse, est très proche de l'Empire romain. Elle est fondée donc à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, ou peut-être un petit peu avant, on en débat encore entre nous, donc à un moment où l'Empire romain s'arrête à Lyon. Donc on est très très proche, on est à 200 kilomètres de l'Empire romain, et à Bibracte, on observe de façon bien plus nette et bien plus précoce qu'ailleurs, le démarrage des contacts, le développement des contacts entre ce monde romain et ce monde gaulois, de la Gaule intérieure non méditerranéenne. Donc ça se manifeste d'abord, je dirais, dès la fondation de Bibracte et même quelques décennies avant, par des importations très très importantes de vins romains, donc les traces archéologiques sont des tessons d'amphores très importants, et depuis quelques campagnes de fouilles à Bibracte, le chantier de mes collègues de l'université de Budapest et de Leipzig, on réalise que on a construit à Bibracte des bâtiments de typologie romaine, technique de construction romaine, plan romain, très bonne qualité, dès le moment de la conquête, dès le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous ne ferez pas dire que c'est avant ou après le passage de César, on n'en est pas là à ce degré de finesse, mais probablement dans les années 40 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est-à-dire à peu près une trentaine d'années avant les plus anciens témoignages que l'on avait d'architecture romaine dans ces nouvelles provinces gauloises. Et le plan de ces bâtiments est tout à fait insolite. Donc, l'unité architecturale centrale, la mieux caractérisée aujourd'hui. Le chantier se déploie année après année, on aura encore des découvertes. C'est une pièce de plan basilical, c'est-à-dire une grande pièce à trois nefs, hein, qui fait 25 mètres de longueur, 8 mètres de côté. Ce type de plan, fonctionnellement, il est un peu ambigu, mais généralement on le retrouve, ou on le retrouverait en Italie romaine, associé au centre civique de la ville, c'est-à-dire au forum, qui est le lieu des procès, des réunions du Sénat. On n'en a pas la certitude, évidemment, que ce soit cette fonction-là pour ce bâtiment, mais gardons cette hypothèse, en tout cas c'est une de celles que l'on garde pour le moment, celle que l'on privilégie, c'est que les ces Gaulois et Duins, au lendemain de la guerre des Gaules, dans un territoire qui n'a pas encore été constitué en territoire romain proprement parlé, ça se fera que 20 ans plus tard, aurait pu se constituer un centre civique suivant des canons romains, ce qui pourrait laisser imaginer, pourquoi pas, là on est complètement en dehors des certitudes archéologiques, que cette construction accompagnait l'adoption d'un système politique et administratif qui aurait pu être calqué sur celui de Rome. Voilà, c'est une fiction, mais qui nous paraît intéressante.
Je crois qu'à Lyon, on avait découvert aussi il y a quelques années des structures romaines très 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 précoces.
Oui, alors à vrai dire, ces choses-là
peut-être moins importantes, ou surtout moins
complètement dégagées, parce qu'ils avaient une découverte qui avait été faite à l'occasion d'une très rapide fouille de sauvetage et qu'on était c'est très frustré en fait de pas pouvoir en savoir plus. Alors, il se trouve que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on ne se doutait pas de la possibilité de trouver des vestiges d'architecture romaine aussi précoces en Gaule, et on n'a pas cherché à la caractériser. Et effectivement, cette découverte de la plaine de Vèze, hein, fameuse pour découverte plus ancienne de la proto-histoire, donc qui était faite, je crois, au début des années 90, nous a montré la possibilité de trouver des vestiges de construction romaine de l'extrême fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, depuis lors, on a d'autres témoignages. Quelques bouts de tuiles romaines dans une fouille de sauvetage à côté de Mâcon l'année dernière. Les vestiges d'une villa romaine du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ dans le Toulousain il y a quelques mois. Donc, il y a un vrai sujet archéologique qui est en train d'émerger aujourd'hui. Le cas de Bibracte n'est pas isolé. On peut encore citer la villa de Lagrange à Genève fouillée il y a quelques années. Donc, il y a une vraie thématique qui montre qu'effectivement, dans des contextes très particuliers, à mieux caractériser, on a pu avoir l'importation de modèles architecturaux romains pour des usages à définir. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait un degré de romanisation beaucoup plus fort que celui qui se traduit uniquement par la consommation de vin romain. Donc on a quelque chose de beaucoup plus sérieux, si vous voulez.
Remontant dans le temps, Vincent Guichard, avez-vous retrouvé l'origine de la cité, de la ville, dans les niveaux les plus anciens?
Non, et c'est vraiment le sujet qui motive le plus la poursuite des recherches à Bibracte et sur d'autres sites contemporains, parce que le Bibracte n'est pas le seul oppidum qui fait l'objet de programmes de recherche importants en ce moment. C'est une vraie question. De plus en plus, les découvertes de Bibracte et d'autres sites, donc je pense à Coran, au Titelberg notamment, ces dernières années, nous montrent qu'on a affaire à des actes de fondation. Et on n'est pas possible à Bibracte de suivre le développement d'une agglomération qui se serait déployée. On a l'impression que tout s'est fait du jour au lendemain. La construction d'une vaste enceinte qui fait 7 kilomètres à l'origine, donc c'est comme une chose tout à fait sérieuse, et la concentration d'une population de quelques milliers d'habitants. C'est un phénomène qui nous paraît soudain à l'échelle d'observation de l'archéologie, qui est de l'ordre d'une vingtaine d'années comme finesse d'analyse. Donc ça semble acquis, c'est conforté par d'autres découvertes. Donc les scénarios qu'on privilégierait aujourd'hui, mais ça reste encore de l'hypothèse parce que les indices sont faibles. Ils sont particulièrement ténus à Bibracte. On manque encore de données substantielles. Ça serait d'imaginer que ces entités politiques régionales, comme celle des Éduins, à un moment donné de leur développement, ont ressenti le besoin de matérialiser au cœur de leur territoire un ou plusieurs lieux importants en les délimitant par une enceinte. Donc c'est un acte essentiellement symbolique. Bon, on a utilisé une architecture militaire, on l'a fait à d'autres époques, de construire des murailles pour montrer le pouvoir, manifester le pouvoir d'un groupe humain, sans qu'on pense que ces fortifications aient pu avoir un véritable usage militaire. De fait, Bibracte était indéfendable, la longueur de ses remparts. Donc c'est l'hypothèse. Est-ce qui semblerait aujourd'hui conforté par le fait que dans plusieurs sites, donc je pensais notamment à Coran et le Titelberg, on a l'impression, ça reste encore à conforter, que l'acte fondateur est lié à l'installation d'un sanctuaire. Donc, c'est-à-dire le politique étant complètement lié au religieux, donc on pourrait imaginer qu'au départ, on avait affaire à des lieux de rencontre probablement peut-être épisodique, lié au fonctionnement de la cité, et que progressivement, dans certains cas, ces lieux sont devenus des lieux de vie qui ont stabilisé une population, ce qui n'a pas été le cas partout. On connaît des oppidas qui sont restés vides.
C'est-à-dire que là, vous avez absolument tout pour faire une ville. Vous avez le rempart ostentatoire, éventuellement l'administration, on en parlait, le Vergobret, le centre commercial et politique et religieux.
Oui, enfin, il est très clair. Puis, autre argument, je pour montrer qu'on a effectivement à faire un chef-lieu, une capitale, et donc une ville suivant nos définitions modernes et de tous les jours, c'est qu'au moment, Bibracte va durer qu'un siècle, à peine plus un siècle, ou 125 ans, hein, et Bibracte va être abandonné très vite au profit d'une ville, Autun. Et en fait, Autun, c'est la nouvelle Bibracte, très clairement, même si l'habillage architectural et urbanistique est complètement romain, et personne ne niera le fait que Autun, dès sa fondation, est une ville à part entière. Donc, voilà, Autun est ce qu'était devenu Bibracte, de façon très très claire.
La ville de Bibracte aurait vécu des rétractations au cours de son histoire ?
Oui, c'est encore un épisode, je dirais, une observation que l'on a faite qui écarte le scénario de développement urbain de cette fin d'âge du fer gaulois, des scénarios que l'on connaît pour d'autres époques de notre histoire, je pense notamment au Moyen-Âge. La ville a été créée suivant un plan très ambitieux, 7 kilomètres de murailles qui délimitent 200 hectares, et assez rapidement, probablement, je dirais moins de 30 ans plus tard, on a reconstruit le rempart avec un périmètre plus faible, 5 km 200 tout de même, et c'est dans cette enceinte-là que la ville s'est développée, donc ça fait à peu près 140 hectares. Vous voyez donc un scénario de quelque chose de très ambitieux, beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer comme population qui pouvait s'installer, et puis on est revenu à des choses un peu plus compactes.
Comment s'organise la ville à l'intérieur ? Des quartiers riches ?
Alors
des faubourgs ?
C'est une vaste question. Vous savez que dans une ville grecque ou romaine, on peut arriver à partir de découvertes ponctuelles, de sondages ponctuels, d'extrapoler, parce que on a un maillage urbain qui est régulier, on a des formes architecturales que l'on connaît très bien, et on peut transposer d'un site à l'autre. La ville gauloise n'a pas de trame urbaine régulière, et d'ailleurs la situation topographique s'y opposait. Bibracte est sur le mont Beuvray, et qui est une colline aux pentes escarpées. Donc comprendre l'urbanisme, dans le détail l'urbanisme de Bibracte, impliquerait de tout fouiller. Ce qui est totalement impensable. En un siècle et demi, on a égratigné 10 hectares sur les 200 hectares. Donc vous voyez, donc on n'a qu'une vision impressionniste. Donc quelques idées forces. D'abord, la population, les habitations semblent se concentrer le long d'une artère centrale, une grande avenue, elle fait 20 mètres de large, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Coexistent dans tous les quartiers des bâtiments à fonction artisanale et des bâtiments d'habitation. Donc il n'y a pas véritablement le quartier des riches et le quartier des pauvres, de façon si schématique. Il est vrai qu'à une période assez développée de la vie du site, au moment où on commence à construire à la romaine, où on commence à construire de grandes maisons romaines à l'image de celles de l'Italie romaine, donc après la conquête, ces maisons ne vont pas s'installer n'importe où, elles vont s'installer sur des lieux qui ont peu escarpés, pour créer des grandes terrasses artificielles. Et donc on va avoir tardivement certains quartiers qui vont être privilégiés, investis par l'architecture romaine et donc de type aristocratique. Mais ça semble pas être un élément qui est lié au développement initial de la ville.
Donc si je comprends bien, on aurait deux traditions architecturales présentes sur ce site gaulois de Bibracte, sachant qu'il s'agit peut-être d'une véritable importation d'un modèle architectural romain pour les maisons les plus riches.
Voilà. Bon, ce qui est clair maintenant aujourd'hui, et nos découvertes des 20 dernières années le prouvent amplement, c'est que cette architecture romaine qui va arriver progressivement dans cette ville gauloise n'a pas été importée en même temps que des modèles urbanistiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais remis en cause l'économie générale de la ville, sauf peut-être des tentatives avortées à l'extrême fin de sa vie. Et les constructions romaines vont se plaquer, vont venir occuper certains quartiers, mais dans une trame urbaine qui reste dans sa logique antérieure à la romanisation.
Alors, quelle est la part, en tout cas, des mondes gaulois et romains dans la vie quotidienne des habitants du Mont-Beuvray?
Ben, j'ai probablement, ces Gaulois du 1er siècle avant Jésus-Christ, du moins cette région de la Gaule, devait être un petit peu schizophrène. Donc, l'archéologie le montre bien, ils essayent, parlons de l'aristocratie, hein, de l'élite, les autres sont plus difficiles à cerner. Donc ils adoptent très vite un mode de vie quotidienne qui s'efforce de paraître romanisé. dans l'architecture, architecture méditerranéenne, très très peu adaptée au climat du Morvan. Il va avoir très très froid dans ces maisons pleines de colonnades hein, du Mont Beuvray. Également dans les habitudes alimentaires, hein, on va importer, alors progressivement, des sauces de poisson, des choses très bizarres qui sont probablement extrêmement éloignées des goûts, des coutumes culinaires des Gaulois. Mais ça fait romain. Et puis, par ailleurs, ils sont très attachés à leur système social proto-historique. La meilleure manifestation que l'on a, c'est le maintien de pratiques funéraires dans la tradition proto-historique, pratiquement jusqu'à un siècle après la conquête romaine.
Et les bijoux sont aussi, semble-t-il, très, très gaulois, non ?
Oui, y a probablement les deux choses. Tout dépend dans le cadre de la représentation. On peut avoir des représentations d'aristocrates. Quand il s'agit de se montrer dans un cadre urbain romanisé, ces gens-là se font représenter en toge, hein, avec leur trianomina, leur nom de nouveaux citoyens romains. Mais dans d'autres cas, notamment dans leur tombe, on les voit habillés à la gauloise, avec leurs armes gauloises. Donc il y a une ambiguïté complète, c'est tout à fait équivoque.
Et puis Vincent Guichard, on écrit en grec.
On écrit en grec très tardivement. Vers 80 avant Jésus-Christ, c'est fascinant, les habitants de Bibracte semblent pratiquement tous capables d'écrire au moins leur nom en caractère grec. Je suis pas sûr qu'il y ait un siècle, les Morvandiaux étaient tous capables d'écrire leur nom en caractère latin. Le latin va s'imposer que progressivement, et en fait qu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Gaulois déjà romain, le rôle des Éduins dans la guerre des Gaules semble assez ambigu.
Oui, probablement autant que celui de tous ces grands peuples de Gaule du centre et du centre-est, pendant toutes les premières années de la guerre des Gaules, jusqu'à l'année 53 inclus, s'en mettent plutôt du côté des Romains, donc alliés de Rome pour aider Rome à intervenir militairement dans le nord de la Gaule et voire même au-delà de la Manche, et qui sont tiraillés pendant les derniers mois de la guerre des Gaules parce que César devient absolument insupportable et de plus en plus tyrannique. Je crois que maintenant on n'hésite pas à proposer, même si les sources historiques ne le prouvent pas, que même Vercingétorix, hein, le héros de l'opposition à César, a probablement servi aux côtés des troupes romaines au courant de la guerre des Gaules avant l'année 52 où il entre en scène véritablement.
Mais pourquoi vient-il donc au Mont Beuvray, à Bibracte, se faire élire dans ces cas-là chef des armées gauloises? Là aussi on est sur le symbole.
Alors, bon, il est clair que Bibracte est une des plus grandes agglomérations de la Gaule à cette époque-là. Maintenant, on n'hésite pas à parler d'une population dont l'ordre de grandeur serait de 10 000 habitants. En tout cas, 5 000 au minimum, en étant très prudent, mais pourquoi pas en imaginer plus de 10 000. On a de nouvelles estimations qui viennent d'être faites dans le cadre d'une thèse qui serait plutôt dans cette direction-là. Donc, Bibracte est un lieu de ralliement naturel, avec certainement des stocks de nourriture pour permettre à des troupes militaires de subvenir à leurs besoins pour des rassemblements qui étaient tout à fait importants. Donc il était, après tout, assez logique que Bibracte soit un lieu qui a vu des événements marquant la guerre des Gaules dans celui-ci et quelques autres.
Donc Bibracte est forcément un symbole, on sait que Vercingétorix s'y est passé, César y résida, toujours est-il que François Mitterrand y a créé une sorte de mythe fondateur.
Bon, François Mitterrand a repris un mythe déjà fort ancien, et il est vrai que Bibracte est un symbole absolument idéal, puisque c'est le lieu de la rencontre pacifique des Gaulois et des Romains, parce qu'il n'y a jamais eu de bataille à Bibracte, si c'était la bataille dite des Helvètes, mais qui s'est pas déroulée sur le site même, mais peut-être une vingtaine de kilomètres. Donc le lieu où à la fois Vercingétorix a fait l'unité des peuples gaulois, ça a duré quelques semaines seulement, et historiquement c'est le premier acte d'unification de la Gaule. Le lieu également qui est lié au plus ancien écrit lié à l'histoire nationale, qui est la guerre des Gaules de César, parce que César a dit lui-même qu'il a mis la dernière main à cette rédaction à Bibracte, pendant l'hiver 52-53 avant Jésus-Christ. Donc c'était un symbole tout à fait intéressant. Donc je trouve, bon, les aléas de l'histoire font que avant d'être président, François Mitterrand a été très longtemps élu de la Nièvre et a une connaissance tout à fait intime du lieu. Et au milieu des années 80, une époque, je dirais, difficile, charnière de la construction européenne, ben ce symbole est réutilisé et on voit ces Gaulois devenir des Celtes, hein, dans le vocabulaire politique du moment, parce que ces Gaulois qu'on se défiait les Européens depuis le 19e siècle. On avait les Gaulois d'un côté, les Germains de l'autre côté du Rhin. Bon, finalement, on a tout remis ça à la sauce celtique, et on a pu en faire un symbole européen, d'ailleurs pour le plus grand profit de l'archéologie et de notre discipline.
C'est-à-dire que le mythe n'est plus national, mais serait réellement européen.
Oui, à l'évidence, c'est même dans notre communication, on se fait prendre au jeu, je veux dire.
Votre équipe est européenne.
Notre équipe est complètement européenne. Les archéologues français sont une nation parmi d'autres dans les équipes universitaires que l'on reçoit. Notre musée, au moment de sa création et de son inauguration par le président Mitterrand, a été baptisé Musée de la civilisation celtique. Donc, une décision qui a été prise en 93-94, c'est tout un symbole.
Puisque vous travaillez aussi avec des Hongrois, des Suisses, des Écossais.
Voilà, donc
des Italiens.
On travaille au quotidien, se côtoie au quotidien dans nos murs des chercheurs et des étudiants qui appartiennent à une bonne douzaine de pays européens.
Et puis en août 1995, une nouvelle éclate dans l'événement du jeudi, le dernier secret de François Mitterrand, tel était le titre, le tombeau du pharaon.
Bon, c'est une époque que je n'ai pas connue personnellement, je travaillais pas encore à Bibract à ce moment-là, mais ça fait partie, je veux dire, c'est un événement à l'occasion duquel, je dirais, le site a un peu rencontré la grande histoire. C'est un événement, je pense, qui restera marqué et qui restera dans les têtes. Effectivement, façon pour président Mitterrand de marquer son attachement à ce lieu, au Morvan de façon plus large, mais au Mont-Beuvray en particulier, d'avoir imaginé à un moment donné pouvoir se faire ensevelir au Mont-Beuvray. Pour des raisons que tout le monde doit se rappeler, ça n'a pas été possible. Mais il n'empêche que, je dirais, la mémoire du président Mitterrand nous accompagne quotidiennement à Bibract, et je pense que ça avait été, même s'il n'a pas vraiment explicité, je pense qu'il avait imaginé que cette chose pouvait fonctionner, ce centre européen en plein cœur de la campagne bourguignonne. C'était quelque chose auquel il a cru et qui se trouve marché, parce que ça fait 20 ans que ça fonctionne, et on a toutes les raisons de penser que ça fonctionnera encore au moins une vingtaine d'années et probablement plus longtemps.
Vincent Guichard, merci beaucoup. Je rappelle donc l'apparition d'un nouveau livre sur Bibract, Bibract, archéologie d'une ville gauloise, écrit par Anne-Marie Romero, journaliste bien sûr au Figaro.